certains d'entre vous ici ce soir connaissent Claude Vautrin et peuvent aussi me connaître par la même occasion. Alors, pour ne pas prendre le risque de faire des erreurs, et puisque nous nous connaissons bien, même très bien avec Claude, je vais prendre la liberté de le tutoyer, si l'on est d'accord.
J'en suis tout à fait d'accord.
Merci. Alors, pour l'heure, quelques mots pour te présenter. Claude Vautrin est donc un voyageur de longue date. Il me semble qu'il a toujours voyagé, et pour ma part, le connaissant depuis quelques 30 années maintenant, il voyageait déjà avant notre rencontre. Claude est donc journaliste et écrivain. Dans sa carrière professionnelle, il était grand reporter et son regard s'est toujours posé sur des zones délicates ou oubliées par les médias. Si l'écriture a été bien entendu son outil de travail en qualité de journaliste, comme vous pouvez l'imaginer, elle est toujours son allié en qualité d'écrivain. C'est une trentaine d'ouvrages qu'il signe à ce jour, avec une plume affirmée que l'on reconnaît dans ses écrits. Claude est fidèle aux imaginales maçonniques et ésotériques depuis une dizaine d'années maintenant. Si je devais brosser son portrait en quelques mots, déjà et encore eux, vu que ça va être vraiment notre thème, je vous dirais qu'il est avant tout curieux de tout. Il a fait de ses voyages ses sources d'inspiration, mais aussi, et avant tout, en partie ses clés de compréhension du monde et de notre ère contemporaine dans lequel il évolue. Passionné par l'humain et le vivant, Claude attache, me semble-t-il, une importance capitale au visible et à l'invisible. La lecture du monde qu'il nous offre au travers de ses écrits est tout aussi lucide, parfois crue, que magique et merveilleuse. Aller au-delà de ce que l'on veut bien nous dire pourrait être sa devise. Alors, je cite, « La vérité d'un mot ne lui est pas acquise, mais elle se fait peu à peu dans la phrase, le discours, la littérature et l'histoire des littératures », écrit Albert Camus dans son essai sur une philosophie de l'expression. J'ajouterai, après m'être plongé dans la lecture du dictionnaire de Claude Vautrin, thème de ce rendez-vous, que cette vérité du mot se construit aussi dans la découverte du monde. L'inscription de cette réflexion, je cite, « Entre ombre et lumière », trouve en tout cas parfaitement sa place dans la thématique de ces imaginales maçonniques et ésotériques, du mot au mot, mot M-A-U-X. Rien à dire jusque-là, Claude ?
Non. Ben non, sinon que je suis ravi de vous voir nombreux à cette conférence, je suis ravi d'être là, bien sûr, et je suis ravi de cette présidence, ma chère Anne. Tout le monde le sait, les mots peuvent générer les pires incompréhensions, voire les pires malheurs. Souvenez-vous, enfin même si vous n'étiez pas né, en 1898, le double dessin de Carandache qui évoque l'affaire Dreyfus. Il y a une image qui représente au début du repas où il est écrit « N'en parlons pas ». Et une deuxième image où la famille qui est rassemblée autour de la table, du dîner, s'étripe et où il est indiqué « Ils en ont parlé ». Donc les mots peuvent être source de violence, de malheur, y compris au sein des plus proches. Mais ils peuvent aussi susciter l'écoute, et nous n'allons pas dire le contraire, nous ici, qui pratiquons l'oralité dans ce temple. De toute façon, les mots participent au langage. Et le langage, il renvoie à la faculté de nommer les choses et de communiquer avec autrui. Voyager ainsi donc à y recourir, à moins de traverser le monde muet d'admiration ou frappé d'horreur selon les directions prises. Cela dit, des silences valent parfois tous les mots. Et un langage, j'ai pu le vérifier de nombreuses fois dans ma vie, peut tout autant recourir à d'autres signes, d'autres expressions, qu'elles soient visuelles ou tactiles, des mimiques et autres gestuelles. Alors, j'étais déjà en cours d'écriture de ce dictionnaire quand ce thème du mot au mot a été choisi par les imaginales maçonniques et ésotériques. Le hasard fait souvent bien les choses. D'ailleurs, j'ai consacré une lettre H au mot hasard dans ce dictionnaire. J'y vois, moi, en tout cas, ce soir, une occasion de situer la réflexion dans cette dualité inhérente à tout être, à toute vie, mais aussi inhérente à tous les mots. Ce que disait Anne-Laure tout à l'heure, via Camus, bien sûr, c'est que le mot, la vérité du mot, évolue aussi à travers les circonstances, à travers le temps, et les sens sont parfois différents. Le voyage, nous, il nous propulse dans l'inconnu. Et c'est ça l'intérêt du voyage. Marc Riboud, le photographe que j'aime beaucoup, qui a rejoint l'éternité à travers son œuvre, nous le dit en une très belle phrase, je vais le citer. « Qui n'a éprouvé ce moment de grâce, d'euphorie, où la passion de regarder, de découvrir, de cadrer, exerce une pression si forte qu'elle nous fait basculer, chavirer dans un autre monde. Dans cette confrontation permanente entre la lumière et l'obscurité du monde, ai-je envie d'ajouter. J'explore donc ici dans ce dictionnaire la dualité des mots liés au voyage entre beauté du monde et violence sourde.
Alors, pourquoi d'ailleurs ce choix d'écrire un dictionnaire du voyageur et non un essai, un genre auquel tu es plutôt habitué? Souvenons-nous de grand reporter Le Pas de Côté qui portait tout ton vécu, mais aussi sur le système médiatique, ou encore Chaos sur ordonnance, paru l'an dernier et lié à la thématique du dérèglement climatique, du rapport entre l'humanité et la nature, les savoirs d'hier et la science d'aujourd'hui, pour ne citer que cela.
Alors c'est vrai, comme le voyage, un dictionnaire est censé ouvrir l'esprit. Il est conçu pour favoriser la compréhension des mots, c'est son but. Et il navigue, comme tout voyageur, entre l'obscurité souvent tragique du monde et les lumières qui illuminent la découverte. Il y a tellement à dire sur le sujet, tu parlais de mon appétence pour les voyages. Ma vie est nourrie des premières découvertes dès l'âge de 7 ans sur les cartes d'un atlas que m'avaient offert mes parents, eux qui n'avaient jamais voyagé. Et puis, il y a eu la première aventure en solitaire à 16 ans où je suis parti seul, mes parents m'ont laissé partir. Et puis, ça a été l'engrenage aidé par la littérature de voyage qu'on a tous connu, hein, Jules Verne, entre autres, enfin, Tintin même, etc., etc. Puis après les bourlingues, les expériences dans des lieux méconnus, des immersions se sont succédées, dans des zones parfois où les temps étaient très noirs, et puis dans d'autres rencontres formidables que j'ai pu avoir avec l'humanité. Le dictionnaire permet à la fois, c'est son intérêt à mon sens, des mots donc, mais les mots ce sont aussi des idées, et une idée génère la réflexion. Donc dans ce dictionnaire, il y a à la fois du vécu, mais aussi une réflexion qui s'ouvre sur un certain nombre de sujets. Voilà, pour résumer, comme le voyage, je crois que un dictionnaire invite à penser.
Parlons d'abord de l'exergue, une citation de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui m'est très cher, comme nombre d'entre vous le savent. Je cite « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus », fin de citation. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce à dire pour toi?
Alors, tous ceux qui errent, hein, E2REMT, bien sûr. Alors, c'est une référence, en effet, à un poème du Seigneur des Anneaux, qu'on trouve dans la communauté de l'anneau, et qui est récité par Anduin. Arvel. Oui. Alors, vous vous souvenez, Arvel, c'est la fille d'Elrond, l'elfe, mais qui est aussi, qui est un semi-elfe, en fait, hein, puisqu'il est à la fois homme et elfe. Celle qui choisit d'abandonner l'immortalité des elfes pour épouser son bien-aimé, qui lui est un mortel, Aragorn, devenant ainsi reine des elfes et des hommes en terre du milieu. Alors le poème évoque Velen, qui guide son peuple durant des millénaires et a fui son monde natal d'Argus pour échapper à la fameuse et terrible Légion Ardente. Ça vous parle, j'imagine. Il symbolise certes l'exil, mais se veut avant tout un mantra pour les âmes en quête de liberté et de sens. Donc il a toute sa place dans cet ouvrage. J'ai trouvé cette référence éclairante.
Alors, avant de plonger dans le vif du débat, parle-nous de la couverture originale, si on est. On y voit une petite fille en marche, en mouvement, qui est donc entre ombre et lumière.
Alors c'est toujours compliqué de trouver une couverture, d'illustrer la couverture d'un ouvrage. C'est toujours un exercice difficile. Et nous étions... Nous sortions d'une galerie d'art à Lima, Anne-Laure et moi, on s'assoit devant, sur un banc public, et face à nous, sur la façade, on découvre cette œuvre d'un street artiste péruvien qui est connu mondialement, qui s'appelle Jade Rivera, et dont on avait découvert d'ailleurs des œuvres dans cette galerie. Et c'est un artiste qui est né à Huancayo, dans les Andes péruviennes, mais qui a acquis une notoriété mondiale. Et je trouvais intéressant le rapport entre le monde, la planète, et puis cette capacité de rester fidèle à son territoire de cet artiste. Comme moi, par exemple, quand j'ai tendance à dire que j'ai deux passions géographiques qui sont les Vosges et la planète. Donc je me retrouvais un peu dans lui. Et l'image là s'est imposée à nos yeux. Parce qu'il y a effectivement une part d'ombre et de lumière. Il y a cette petite fille en mouvement. Et puis cette grille qu'il faut traverser. Donc les obstacles à franchir, les épreuves peut-être. Enfin, chacun l'interprète comme il veut. Mais en tout cas, ça nous a séduit et la photo a été réalisée et figure donc en couverture.
Alors ce dictionnaire, c'est près de 170 entrées sur cette thématique forte, ombre et lumière. Une centaine de photographies l'illustrent, mais d'abord, comment s'est opéré le choix des mots? Alors, moi je l'ai vu un petit peu quand même, j'étais une petite souris... dans mon atelier, donc je voyais bien que ça bouillonnait, je voyais bien que ça cherchait, parce qu'en fait, dans un dictionnaire, il y a des milliers de mots, et l'intérêt et la difficulté, c'était de trouver des mots qui puissent être, à mon sens, tout aussi porteurs de son ressenti sur le monde, que aussi de son parcours à lui.
Oui, c'est vrai que le voyageur, il voyage pas dans un monde de bisounours, quoi. C'est évident, surtout aujourd'hui, mais de tout temps, ça a été comme ça. Et alors, la question était comment j'ai choisi. Bah, c'est un choix forcément, je sais pas si on m'entend bien.
Oui.
C'est un choix forcément subjectif. Mais subjectif dans le sens où il fait partie du vécu. De mon vécu, mais il fait partie aussi d'une réflexion sur le monde. Et des réflexions, on peut en ouvrir des milliers. J'ai donc forcément été influencé par mon propre parcours, et peut-être bien aussi par le parcours que je suis ici depuis une quarantaine d'années. Voilà. Donc, choix subjectif, mais qui a une résonance pour moi dans un travail que j'ai déjà accompli et qui est la métamorphose permanente qui est la nôtre et auquel le voyageur est forcément soumis, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que chaque rencontre, chaque découverte fait que l'être change, évolue et donc chemine, est en mouvement. C'est un des mots clés aussi qui a dicté les mots que j'ai choisis. Ce terme de mouvement, mais mes frères ici présents sauront que j'y suis très attaché. Alors, je vais peut-être vous citer un exemple pour illustrer ça. Vous trouverez à la lettre F le mot frayer. Frayer. On peut parler de frayer dans un livre sur le voyage entre ombre et lumière. Eh bien, le mot frayer vient du latin. Alors, moi, je suis très sensible à l'étymologie des mots. Les mots se construisent, on a dit, la vérité du mot se construit au fil du temps, mais l'étymologie fait partie de ce parcours. Et fricare, ça veut dire frotter, se frotter au monde, se frotter aux obstacles du voyage. C'est un peu le propre du voyage qui doit faire face à ce qui doit arriver. Vous savez comment on dit? En latin, ça vient de adventurus, ce qui doit arriver. Donc, c'est l'aventure. Et le voyage, c'est toujours, quelque part, une part d'aventure. Et devoir faire face à ce qui doit arriver. Alors, ça explique peut-être, j'en parle, que lors des préparatifs, même si pour moi, ils sont de plus en plus tardifs, parce qu'il y a une sorte d'habitude qui se prend, la valise se remplit quasiment toute seule du sac à dos. Et malgré tout, et encore le dernier, il y a toujours une espèce de stress qui se manifeste par des petits riens, un petit gazouillis dans le ventre, un cœur qui bat un peu plus vite, une tête qui s'agite un peu, enfin, un coup de chaud, voilà. Et c'est seulement à l'arrivée que la plénitude est forcément forte. Elle est forte et moi j'adore arriver dans un aéroport, louer une voiture ou un vélo, mais ça m'arrive moins souvent, et emprunter une route un peu inconnue et aller vivre justement cette aventure. Donc dans ce dictionnaire, il y a effectivement pas mal de mots qui s'apparentent au mouvement. Ça fait aussi partie du choix des mots, hein, c'est-à-dire ce qui m'habite comme réalité de ma vie.
Pour ceux qui te connaissent, je dirais toujours en mouvement. Certains savent, je regarde Patrice, t'es pas étonné.
Non, du tout.
Alors, il y a aussi des liens avec des pays, me semble-t-il.
Oui, c'est des anecdotes. Des fois, j'ai tellement envie d'aller découvrir l'autre et la nature, hein, parce que la nature, c'est un des personnages principaux de mes écrits. Des fois, je vais trop vite quand je loue une voiture et je me fais arrêter. Donc, ça m'est arrivé en Nouvelle-Zélande où j'ai dû faire face à un policier qui arrivait en face de moi et qui a fait un demi-tour sur la route en mettant les sirènes, etc. Et j'ai fait celui qui ne parlait pas anglais. Et il m'a accueilli, il m'a souhaité la bienvenue. Mais après quelques discussions, quand même. Voilà. Et oui, les pays aussi, c'est ce qui me pousse à. Ce qui m'intéresse, c'est pas les lieux de surtourisme. J'en vois qui rentrent d'Islande et c'est. Moi, j'aime bien aller éviter quand même les zones. Bon, j'y vais parce que des fois, c'est très beau, comme par exemple Gullfoss en Islande, cette énorme cascade qui mérite le détour. mais je préfère m'échapper dans des péninsules comme Sniffleness. Je pense pas que tu aies été déçu par Sniffleness.
Ouais, pas du tout.
C'est un bon conseil alors. où on peut être en contact avec l'autre, avec la nature, de façon apaisée, sans stress justement. Il y a des lieux magiques qui me restent en mémoire. C'est par exemple engager une randonnée sur l'île de Santo, au Cap-Vert, sur un chemin tracé par les Portugais, mais surtout par les esclaves qui travaillaient pour eux, pavé de bonnes intentions, puisqu'il s'agissait de cheminer le long d'une falaise qui domine l'océan Atlantique, qui faisait des villages qui sont accrochés à la falaise. Et là, vous entendez des enfants, donc vous vous approchez. C'est une école, c'est une institutrice cubaine, qui est en Cuba. À Cuba, ce n'est pas seulement les barbouzes, c'est aussi des institutrices qui vont en Afrique partager l'éducation, ou des médecins. Ça, c'est intéressant aussi. Puisque le voyage est censé aussi casser les codes. Un peu comme ce qu'on fait ici. Un symbole, ça réunit, il y en a plein ici. Mais ça réunit avec des visions différentes. Et on peut avoir des visions différentes et apprendre à casser les codes grâce à ces découvertes. Bon, je pourrais en dire plus, mais puisqu'on parle des mots, une des dernières rencontres assez fabuleuses que j'ai faites, c'était l'an dernier en Amazonie péruvienne, dans un petit village qui s'appelle San Joaquin de Omagua, le long de la rivière amazonienne, au Pérou, donc déjà un kilomètre de large à peu près. Et puis là, j'ai rencontré un jeune universitaire de l'ethnie Omagua, qui s'appelait Vilmer, et qui tente de perpétuer la langue de son peuple, dont les 5 derniers locuteurs dans ce village-là étaient morts de la Covid. Il y a d'autres villages au Magua, et lui s'est fixé comme objectif dans sa vie de maintenir en vie cette langue. Intéressant, quand on sait, puisqu'on parle des mots ici, que tous les 15 jours dans le monde, une langue disparaît. Et que si on continue sur ce rythme-là, à la fin du siècle, il y aura une vingtaine de langues qui vont dominer le monde, si ce n'est déjà fait. Voilà, c'est aussi une réflexion pour ce dictionnaire sur cette question. Et puis, dans ce petit village, il y avait une espèce de vraiment petit musée, mais rien. Quoi. Il y avait les portraits de 4 personnages, des explorateurs du siècle passé, voire du XVIIIe siècle, dont le français Charles de la Condamine. Hein, vous avez déjà sans doute entendu parler de cet explorateur qui était encyclopédiste, botaniste, zoologue et géographe. Alors moi, je ne maîtrise aucun de ces savoirs, bien sûr, mais je n'en ai pas moins adoré l'idée de marcher sur les traces du français Charles de la Condamine. Alors, il n'y a pas de construction. On peut dire, si encore une ou deux choses, c'est que à chaque changement de lettre, hein, sur les 26 lettres, en fin de lettre, je présente un pays à ma façon, c'est-à-dire avec la lettre qui correspond. Et puis, à la fin, vous trouverez 2 tables de matière. La première qui resitue dans chaque pays les mots qu'il concerne, ça permet d'aller... parce que c'est quelque chose qui se lit en plusieurs fois. Hein. Je dirais que vous pouvez le mettre dans vos toilettes et regarder un mot de temps en temps, selon l'état des lieux. Voilà. Et la seconde table des matières, c'est les mots développés pour chaque lettre de l'alphabet. Ce qui permet des allers-retours entre les mots, les pages et la planète. Alors, les photos aussi, on va peut-être en parler, puisqu'il y en a une centaine, elles sont des ponctuations. Elles appuient le propos. Alors on va peut-être parler du mot défilé. Défilé, ça peut être ce défilé auquel je n'ai pas participé, mais que j'ai pu voir et qui met en scène les forces spéciales de l'armée populaire de Corée du Nord. Donc autant dire que. Mais cela dit, vous voyez les forces spéciales défiler du 14 juillet en France, c'est pas loin d'être le cas. Et puis l'autre défilé, c'est Auckland, Nouvelle-Zélande. Le hasard fait que vous rencontrez une bande d'Hare Krishna qui danse la musique, qui danse la religion, qui danse leur philosophie de vie. Voilà. Donc un défilé, ça peut prendre des sens différents, hein, selon les circonstances. Un autre exemple qui apparaît au mot uniforme, voilà, ça c'est aux Caraïbes, un uniforme d'un dandy caribéen. Et puis, à Moscou, dans les années soviétiques, un vétéran qui a le revers de la veste couvert de médailles. Là encore, ça renvoie à des réalités, évidemment, différentes. On peut prendre pour exemple aussi le mot forêt. Ça, c'est une forêt de Lituanie. Les pays baltes sont réputés pour leur forêt. Et là, c'est un coin particulièrement magique qui m'a séduit. Par contre, dans cette Nouvelle-Zélande qui est réputée pour sa nature, et c'est ô combien vrai, vous avez cette forêt massacrée par le système d'exploitation à blanc et toc. On peut découvrir un peu sur toute la planète aujourd'hui. Et dernier exemple, ces deux photos incarnant la musique. Alors ça, c'est au cœur de la montagne arménienne, dans une église souterraine. Vous arrivez et le hasard fait que vous entendez des voix magiques chanter le ciel, le cosmos, Dieu, peu importe. Mais en tout cas, c'était un moment d'une grande émotion et le souvenir de la musique qui quand même s'impose sur les terrains de bataille. Ça, c'était... Je pense que peu de voyageurs aiment aller faire du tourisme sur les zones de guerre. Mais bon, moi, ça a été une réalité. C'était pas du tourisme, c'était le job qui m'a placé. Et je suis tombé sur ces jeunes miliciens croates qui se détendaient après avoir détruit un village. Donc, réflexion, non encore.
On voit bien que les mots sont donc d'une grande diversité. On passe d'amour à oppression, de ripaille à beauté, de larmes à utopie, et j'en passe, etc. Chaque entrée du dictionnaire se veut une invite à l'évasion et en effet à la réflexion, comme tu nous le soumets. Commençons par les sujets de réflexion. Ils nous concernent toutes et tous. J'en ai retenu quelques-uns. Certains inédits, par exemple les mots arrogance, balise. Parmi les plus en vogue dans les discussions actuelles, l'éthique du voyage, bien sûr, ou le mot génération. Peux-tu nous en parler ?
Bien sûr. Alors, c'est vrai, que vient faire le mot arrogance dans un dictionnaire du voyageur ? On peut se poser la question, mais le constat est le suivant. La découverte de l'autre, d'un autre territoire, renvoie forcément à ce que nous sommes, nous. À ce que nous sommes devenus aussi. On parlait de la Corée du Nord, hein, effectivement, c'est un drôle de pays, hein, isolé, dictature, dynastie, etc. Ça peut renvoyer à ce que nous sommes. Ça nous rappelle d'ailleurs moi, je me suis retrouvé un peu dans les années de mon enfance, dans les années 50, en France, en Lorraine. Tout est possible. Alors, arrogance, pourquoi ? Ben parce que je me suis rendu compte à travers les contacts, les amitiés que j'ai nouées ici et là, que l'image de la France dans le monde avait perdu de son aura. Je me souviens, jeune professeur à l'Université fédérale de Santa Catarina au Brésil, j'enseignais la littérature française, l'année où André Malraux est décédé, le doyen, le recteur sont venus me présenter leurs condoléances comme si j'étais l'ambassadeur de France. Quoi. Il y avait une sorte de respect de notre pays qui faisait partie de la lumière qu'elle savait partager, irriguer dans le monde. En dépit, il ne faut pas être naïf, hein. En dépit des périodes coloniales, des guerres coloniales, de tout, je suis pas naïf là-dessus. Mais bon, il y avait une sorte de respect. Et depuis, il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Il y a eu le Rainbow Warrior, par exemple. Il y a eu la poursuite des essais nucléaires en Australie. Je me souviens être allé en Australie à cette époque. Où le français était vraiment mal vu, avait perdu de son aura. Il y a eu aussi le manque de vision globale en Afrique, on voit aussi les résultats aujourd'hui. Il y a eu la difficulté pour la France de trouver sa marque dans le nouvel ordre international. Et tout ça, ça a des conséquences qui font que je pense que tous les voyageurs qui sont présents ici, on peut constater. En tout cas, moi, je l'ai constaté. D'où un mot, arrogance, qui vient, où il y a un petit développement, mais qui me paraissait intéressant. Le mot balise, par exemple, oui. Une balise, c'est fait pour alerter. Hein, dans la circulation d'une voiture, sur les mers, dans les aéroports et tout, il y a des balises pour indiquer des choses, vous pouvez y aller ou pas. Bien aujourd'hui, les balises s'allument un peu partout. Les clignotants sont là. Comment imaginer, vous souvenez du raid Paris-Gauloise, enfin Paris-Téhéran, pardon, pas le raid Gauloise, le Paris-Kaboul en deux chevaux, en merlé. Tout ça, c'est impossible à faire. C'est plus possible. C'était des jeunes de 20 à 30 ans qui partaient. C'est plus possible. Le Paris-Dakar, il se fait même plus sur le parcours initial. Il se fait soit en Amérique latine et maintenant en Arabie saoudite, dans les déserts saoudiens, qui ne sont pas un modèle d'ailleurs, ce n'est pas une référence pour moi en tout cas de vie. Mais bon. Il y a des pans entiers de la planète qui se referment sur eux-mêmes. Qui peut aller aujourd'hui, si on peut y aller, au Pakistan, mais ça reste dans des zones très précises. L'effondrement des institutions rend difficile les séjours. Les pénuries de ressources, les trafics en tout genre, les menaces sanitaires, enfin, et j'en passe, climatiques, les fermetures des frontières. Donc tout ça me fait dire que notre société fait en sorte que les produits voyagent plus facilement que les humains. Et donc là, il y a un véritable changement. D'où ce mot balise qui apparaît. Mais la lumière est toujours là, puisqu'on oscille toujours entre cette ombre et cette lumière. Et je me souviens d'un séjour dans l'archipel des Bijagos au large de la Guinée-Bissau, qui est en fait une série d'îles et d'îlots qui sont entourés par des courants très très forts. D'ailleurs, les enfants, les petits Bijagos qui, à l'âge de l'adolescence, doivent suivre un rituel d'initiation ont pour mission de traverser ces courants sur une pirogue, c'est très difficile, et d'aller chercher un objet sur le littoral du continent africain, de la Guinée-Bissau, et de ramener... Et moi, ce qui s'était passé, c'est qu'un des jeunes avait ramené un réveil. Vous voyez à quelle époque c'était, hein, il n'avait pas encore de smartphone. Il avait ramené un réveil pour la tribu. Eh bien, dans cet archipel, il y avait une épidémie de choléra à l'époque. Et les femmes bijago, qu'on appelle les femmes esprits, parce que c'est un régime matriarcal, mais elles dominent à la fois la gestion du foyer, mais aussi la gestion spirituelle et religieuse, en quelque sorte. Eh bien, ces femmes ont été d'un soutien extraordinaire, prodiguant pas les soins, mais l'alimentation en eau potable, etc., pour permettre au séjour de pouvoir se passer. Je dois aussi reconnaître que dans les zones de guerre, les femmes jouent ce rôle lumineux aussi. Donc, quelles que soient les circonstances, il y a toujours moyen de rencontrer des êtres de lumière qui contrebalancent le malheur. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, il y a cette nature qui est aussi extraordinaire. L'immersion dans un univers comme le désert, par exemple, vous met tout de suite en communion avec autre chose. Un temps où il n'est plus question de miser sur le paraître, mais plutôt sur l'être, de plus prendre en compte les certitudes établies, d'oublier l'arrogance, justement, quand ce n'est pas le mépris sur l'autre. Voilà. Donc il y a toujours moyen d'être à l'écoute, de cultiver la tolérance et le souci d'harmonie.
Leur une nature qui est d'ailleurs omniprésente dans ce dictionnaire, comme souvent dans tes écrits. Je vais en profiter pour faire une petite pause lecture à deux voix, si vous en êtes d'accord. Un extrait que j'ai beaucoup aimé. Arrêtons-nous au mot brume. Et avant, quelques notes de musique.
Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
Toujours sensible aux brumes qui enveloppent, transforment, déforme les paysages, je me réjouis de ces aubes nébuleuses. Sur les collines cernant Antonio Prado, échappant à la nuit, des vignobles chargés de raisins noirs, des vergers aux fruitiers prometteurs, émergent peu à peu, avec douceur, presque indolence. La dernière colonie italienne créée au sud du Brésil par l'empereur Dom Pedro II, en 1885, s'éveille au jour nouveau. Les Indiens Caigangé ont déserté depuis longtemps la Sierra Gaucha. Une femme nourrit des poules, des rires d'enfants proviennent de la maison de bois aux abords fleuris. Une écharpe cotonneuse couvre un bosquet, se perd dans les prés. Le temps est revenu de travailler la terre, le regard nostalgique parfois tourné vers les reliefs de la lointaine Lombardie.
Déjà des femmes défient le brouillard dans les rues jouxtant le port de Vila do Conde au Portugal. Premier cri à même le pavé, des vendeuses de poissons fraîchement pêchées, premières tractations enjouées. La vie chasse la nuit sous le couvert d'une brume de mer qui s'éternisera encore des heures, laissant poindre le clocher proue de l'église de Notre-Seigneur des Navigateurs, sait-on jamais. Dans ce Finistère d'adoption, du côté de Plouescat, mer et terre se confondent, voilées, tout en dessinant entre terre et ciel des formes lascives. En d'autres lieux, de telles évanescences sont prêtes à s'éterniser, flottant au-dessus des vallées vosgiennes, s'étirant le long des pentes forestières. La journée sera froide en dépit du soleil pointant son nez à l'horizon allemand.
Certains soirs, le sol herbeux livre ses bouillonnements vaporeux où des trolls hésitent à s'échapper. Nuit et brouillard ne font pas bon ménage. Mieux vaut se préserver, se plonger dans un poème de Pablo Neruda ou de Charles Baudelaire. Ô fin d'automne, hiver, printemps trempé de boue, endormeuse saison, je vous aime et vous loue d'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau d'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau.
Qui aime les temps médiévaux se perdra dans les douves, sur un chemin de ronde où le machicouli d'un château cerné par la forêt et dominant une plaine devenue mer. L'océan, justement, où, d'un ferry semblant naviguer à l'aveugle, s'échappe, grave et pénétrant, le son d'une corne de brume.
J'aime m'en remettre à ces destins incertains, annonciateurs. J'aime m'en remettre à ces destins incertains, annonciateurs, je le pressens de lendemain réconfortant. L'île de Barra, au large de l'Écosse, et son auberge chaleureuse. La riche rencontre de Marc Fribourg et de ses Leïkas dans les monts Huanshan en Chine. Une caldeira livrée aux nuages calmant la violence passée du volcan. Je me réjouis plus encore des savoir-faire ancestraux ressurgis dans les zones arides du Chili dans les années 1960. Que ces savoir-faire renaissent au bout du jour sous la forme d'attrapes brouillards. Captant, comme les arbres fontaines, tel le petit tamarin des hauts à La Réunion, l'eau du brouillard. Ingénieux, non ? Musique.
Il concerne cette fois les générations.
Oui, alors là, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Certains me reprochent parce que mon bilan carbone n'est pas très bon. Cela dit, le temps tourne lui aussi, et dans ce mouvement permanent, la question relative à la génération me tient à cœur. Sans doute parce qu'on a trop tendance à les opposer. Moi, je suis un militant absolu de l'intergénérationnel. Je ne me plie en rien au cliché générationnel. Ouais, il y aurait le diktat du jeunisme, d'un côté, une certaine condescendance des aînés de l'autre. Bref, l'agisme fait fureur. Je trouve que c'est une absurde conception de la vie. Nous sommes toutes et tous embarqués sur le même bateau. Mieux, nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre, et l'un de l'autre. Alors moi, je fais partie de la génération des baby-boomers, ouais, des 30 glorieuses, la facilité de la vie, pas si rose la vie. Il n'y avait pas de toilette dans l'appartement où mes parents habitaient quand j'étais gamin. Il n'y avait pas de douche. Il fallait aller au bain thermo, à Nancy Thermal, le samedi. Ça ne veut pas dire qu'on ne se lavait pas dans la semaine, hein. Mais voilà. Ensuite, il y a eu la génération X, la Gen X, attachée aux questions environnementales. Moi, j'ai toujours fait attention à l'environnement, à la nature. Je me souviens boy scout, avoir passé une nuit dans la forêt, à apprendre ce qu'était la forêt, etc. Ensuite, il y a eu la génération Y, celle du changement de millénaire marqué par le terrorisme, la mondialisation, les dérèglements climatiques. Eh bien, l'enfance ne fut pas toujours aussi blanche qu'on le dit. Il y avait la guerre au Vietnam, les décolonisations sanglantes dont j'ai déjà parlé, etc., etc. Puis la génération Z a fait son apparition. Elle était la première, disait-on, à faire partie d'une culture mondiale. Moi, je me suis toujours bien senti dans le monde, quel qu'il soit. J'ai toujours apprécié aller vers l'autre et remettre en cause peut-être certains de mes acquis. Et surtout, revendiquer le désir de m'épanouir librement. Et là encore, j'applaudis des deux mains à cette culture mondiale, mais pas dans le sens où ça va aujourd'hui, c'est-à-dire les langues qui se perdent, qui meurent, la maîtrise d'une société occidentale qui ne regarde le monde qu'à travers son nombril, ça soit dans le système médiatique, etc. etc. Et puis, il y a la génération alpha qui est arrivée, qui maîtrise, elle, la technologie. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très doué dans les technologies informatiques. Mais il paraît que la génération bêta, qui commence là en 2025, elle va être super, super efficace à ce niveau-là. Moi, j'attends, en tout cas, j'attends, et le plus tard possible, d'intégrer la génération oméga. Alors, l'éthique du voyage, on n'y échappe pas. Hein. Je vous ai parlé de mon bilan carbone, de l'empreinte, du choix de l'hébergement, du choix des avions long courrier. Je sais, par exemple, que le père de Lanor, qui était frigoriste, partait en Amérique latine sur un paquebot. Donc, il faisait 6 semaines de paquebot. Ok, c'est une façon. Mais un paquebot, ça peut lui aussi. Enfin. Moi, je trouve que l'essentiel du voyage éthique, puisque c'est de ça dont il est question, doit s'affirmer avant tout dans les comportements bienveillants qu'on a vis-à-vis de ceux qui nous reçoivent, et la capacité à respecter les autres, la nature, leur culture, bref, leur patrimoine.
L'inspiration se nourrit donc de l'observation du monde, comme tu viens de le dire, de ses mutations durant ces dernières décennies. Des sources d'inspiration semblent néanmoins s'imposer. La nature, on l'a vu, la musique, le mouvement, les sentiments que réveille le voyage. La nature est omniprésente ou presque. Dès le début, les premiers mots, animal, arbre, viennent le confirmer effectivement.
Oui, je crois que ce que je disais tout à l'heure, la nature est un personnage principal. Quoi. C'est, à la limite, elle transparaît un peu partout dans ce dictionnaire. Il y a des mots, effectivement, qui s'imposent comme animal, arbre. J'aurais pas pu imaginer évoquer le monde sans parler de ces êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, voire d'ailleurs minéraux, hein, qui pour moi... la même capacité de vie que les autres. Il n'y a qu'à aller dans une région volcanique, par exemple, on s'en rend compte. La nature fait partie intégrante, oui. Des récits qui germent un matin dans ma tête, et quand je prends la plume, eh bien, ou plutôt les touches, elle guide un peu mes écrits. Et puis, je voulais dire aussi que d'évoquer les Chinois qui honorent le soleil au sommet des Ruanshan, c'est impressionnant. Vous pensez être seul, vous avez grimpé pendant une journée complète des escaliers taillés dans la roche depuis des centaines d'années pour rencontrer Marc Riboud. Passer une petite nuit dans un refuge, vous pensez être seul pour le lever du soleil, au moment où le soleil se lève, vous avez une rumeur une amplitude extrême. Il y a plus de 500, 600 Chinois qui ont suivi le même chemin et qui saluent le soleil. Et ça, c'est assez fort, quoi. Et en Provence, on danse pour invoquer la pluie, comme on le fait en Iran, où c'est la prière qui tient ce rôle-là. Les Mapuches, où je me suis immergé durant 2 mois dans une communauté, vénèrent une cascade. Les Maasai ou les Japonais, leur volcan sacré. Alors je ne sais quelle découverte choisir pour remercier la nature de ces éclats somptueux qui nous poussent à plus d'humilité encore. Et Dieu sait si l'humilité est un mot-clé aussi pour moi, qui d'ailleurs rime avec humanité et tire son origine de l'humus. L'humus, c'est ce qui participe à donner la vie et à donner la croissance. Alors, je vais vous donner un exemple. Un jour, je me suis trouvé, la première fois que j'ai découvert ce volcan, le Perito Moreno en Patagonie argentine, vous avez cette confluence de 7 volcans magistraux qui descendent des Andes, qui ont une vie extraordinaire. Et vous avez ces pans de glace qui s'écroulent dans le lac. Et c'est quelque chose de fascinant, quoi. Je suis resté plus de 5 heures à observer ce phénomène, à rester en communion avec ce site extraordinaire. Moi, je suis un adepte du mouvement, mais par moments, il faut savoir se poser. Il faut savoir contempler les merveilles du monde. Ces voyages-là ne sont pas pour autant immobiles, évidemment. Parce que les sens, les émotions, les ondes les plus intimes s'activent, se meuvent, ouvrent les portes d'un autre monde. Ces temps forts délivrent encore une fois l'esprit des contraintes, souvent trop banales du quotidien. Ce dernier se livre sans peur aux énergies, manifestes ou invisibles, qui l'environnent. Il trouve matière à méditation, voire à l'émergence de plaisirs nouveaux.
Tout cela engendre-t-il de la nostalgie ? Pas si sûr à te lire, je vais te citer pour ce mot. Ai-je la nostalgie d'une terre qui a porté mes pas ? Un son, un visage ? Un paysage me revient à l'esprit. Alors je chante, je souris, je redessine les contours d'un lac, d'une montagne, d'une vallée riante, d'une forêt dense ou d'un verger en fleurs. Des questions surgissent inexorablement. Quelle tonalité aujourd'hui pour ce son ? Quelle expression pour ce visage ? Quelle configuration pour ce paysage ? Nulle nostalgie. Plutôt un sentiment de joie profonde, inexprimable, d'avoir partagé, quelle qu'en soit la durée, ce que l'homme et la nature offrent de meilleur, la spontanéité d'un instant, d'un élan, d'un présent.
Oui, mais je dois aussi l'avouer, certaines découvertes marquent à jamais loin de la nostalgie. Dans ce dictionnaire, des mots y font référence, le mot limite par exemple. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et là, je pense à la question environnementale. Je pense dans ce Québec merveilleux, aux forêts profondes, aux lacs superbes, aux rivières vives. Je pense à Rouyn-Noranda, dans l'Abitibi-Témiscamingue, une fonderie qui depuis un siècle pollue, mais pollue à l'extrême la nature. Et non seulement pollue la nature présente, mais pollue l'atmosphère. Ce qui génère des pluies acides, mais en quantité. Ce qui perturbe la vie dans les rivières, qui tue des poissons, parce qu'il y a des métaux lourds qui se libèrent, et qui vont jusqu'à polluer toute la chaîne alimentaire et poser des problèmes de santé précis aux populations autochtones. Je pense au faubourg de Nairobi, la capitale du Kenya, quand vous entrez dans cette ville, vous traversez forcément Kiber, un bidonville de plus de 500 000 âmes livrées aux mafias, avec la misère qui accompagne. Je pense aux eaux du Citarum à Java, en Indonésie, et du Gange en Inde, polluées par les centaines d'industries qui jalonnent ces rives, les industries textiles. Oui. Voilà. Donc tout ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit, ombre et lumière.
On trouve dans ce dictionnaire des petites phrases proches d'une maxime, d'un dicton, et de plus grands développements, on l'a bien entendu. Je vais en citer quelques-unes et tu m'en expliqueras si besoin le sens. Par exemple, Claude, voici ta définition de l'amour. Émotion intense. L'amour est un voyage dans un train lancé à grande vitesse à travers les beautés du monde.
Est-ce que je dois aller plus loin? Oui. Surtout, j'en ai pris des trains. Non, mais une émotion intense ne s'explique pas. Rien ne résiste à l'amour, d'où ce sentiment de grande vitesse. Mais un train ainsi en course ne jamais s'arrête. L'amour est une découverte permanente, un émerveillement. D'ailleurs, le poète Jacques Salomé, dans Éloge du couple, nous dit « L'amour est mouvement ».
Et maintenant, parle-nous de la beauté. Je te cite. Le voyage révèle la magnificence et les indigences du monde pour mieux trouver en soi le beau, le juste et le vrai. Cela nous renvoie à la philosophie, à Socrate, à Platon. Et je serais tentée de faire un petit clin d'œil en ce moment précis. Quand j'énumère ces mots-là, que j'ai écrit, qu'on a travaillé ensemble, sans faire du tout de comparaison, j'ai l'impression de choisir les mots aussi que Khalil Gibran choisissait dans le prophète, où effectivement, à chaque mot, l'amour, la tendresse, la peur, la tristesse, des réponses étaient données. C'était mon petit coup d'émotion personnelle. Là, voilà.
Là encore, je ne vais pas m'attarder, puisque tu as amené un élément essentiel, mais pour moi, cela renvoie, je crois, à trois dimensions indispensables à la croissance de la vie intérieure, tout simplement. Alors là, c'est un sujet inépuisable, donc on se verra dans les années prochaines.
Alors parlons de ce verbe « cheminer », de ta définition. Je te cite. « Le chemin étroit serpente jusqu'à l'horizon dans un monde chargé d'histoire. À pas lents, l'être trace en lui la voie du renouveau. »
Alors c'est vrai que dans cette phrase, j'ai mis du temps à l'écrire, mais parce que chaque mot a été était important, a été choisi avec une précision. Voyager, pour moi, c'est une affaire de destruction créatrice. Je ne fais pas référence à la théorie de Schumpeter, à la théorie économique, voulant que les innovations engendrent forcément un renouvellement du système productif et donc la mise à mort de certains outils de production, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on a vécu à la fin du 19e, etc. Que ce soit en termes de production ou d'organisation de la vie sociale ou économique. Pour moi, je mets ça plutôt dans le domaine de l'art. Alors, est-il royal ? Je ne sais pas, sans doute. Cette fois, le geste créateur, enfin pour moi, a une puissance émancipatrice. Et je reviens à ce mot-clé aussi qui est celui de la liberté. Il libère des contraintes du passé, gomme les influences d'hier, de toujours, que ce soit la famille, la société, la politique, les idéologies. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je situe ce pas lent et cette voie du renouveau dans ce sens.
Il y a de ces petites phrases plus souriantes. Alors, je vous les cite parce que je les aime bien. Le lève-tôt, par exemple. Alors, je te cite. Pèlerin en mal de matine, voyageur qui ne veut pas rater son train ou cheminot sans toquante. Ou encore le noctambule. Alors, selon toi, un noctambule cherche la lumière, le nomade, lui, suit une étoile.
Alors moi, j'ai envie de partager aussi celle-ci sur la verticalité dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà ma définition de la verticalité. C'est une posture première de l'homme qui a su se mettre debout en dépit des courbettes, génuflexions, voire l'aptitude à se coucher de sa peau. Quant au voyage, bon, c'est plus court, hein. Le voyage, pour moi, c'est le mot-clé, évidemment, dans ce dictionnaire. Mais sans clé, on n'a pas besoin.
Puisque nous intervenons en ces imaginales maçonniques et ésotériques, les mots n'y échappent pas. Quid d'ésotérique dans ce dictionnaire?
Alors, déjà, le fait de situer le dictionnaire du voyageur entre ombre et lumière, forcément, ça incite à aller un peu vers ces parties sombres, parce que l'ésotérisme, c'est quoi? Le mot ésotérique, ça veut dire soit obscur, enfin, dans le dictionnaire en tout cas, dans le Larousse, soit incompréhensible pour qui n'appartient pas, au petit groupe des initiés. Alors cela dit, la pratique ésotérique englobe une variété infinie de disciplines et de rituels visant à accéder à des connaissances cachées, c'est vrai, ou à transformer l'initié, je reviens à la notion de métamorphose. Alors tout ça, ce serait en fait la définition du voyage en sombre et lumière. Et aux allers-retours permanents que fait le voyageur entre ces deux dimensions.
Cela dit, il y a des mots-clés, des atmosphères dans ce livre qui côtoient l'ésotérisme, voire l'identifient, lui donnent chair. Par exemple, le mot chaman. Tu évoques les liens noués avec eux lors de tes voyages.
Oui, j'ai eu l'occasion, effectivement, surtout lors de mes immersions, de rencontrer, de dialoguer et d'observer ces êtres humains en capacité de communier avec un monde invisible. Leur mission, c'est... me disait Rosita Barbosa, une femme médecine de Mapuche, une autorité spirituelle dans cette région du Chili. Première mission, c'est de transmettre des messages. Voilà. Mais l'idée, c'est de vivre en harmonie avec l'environnement, la Terre, le cosmos, bref, les mondes visibles et invisibles dont je vous parlais. Mais plus pragmatique, le rôle des chamans sert aussi la transmission de la culture ancestrale et la préservation, c'est-à-dire via les rituels qui se répètent depuis des siècles et des siècles, non pas même, non. On transmet la langue, on permet à la langue de se maintenir en état. On transmet une philosophie, on transmet le respect de la nature que l'enfant découvre avec la machi, c'est chaman en mapuche. Lors de la cueillette, par exemple, des plantes médicinales. Et à tel point qu'aujourd'hui, les scientifiques qui sont perturbés comme les politiques, bon, ils ne montrent pas trop les politiques, mais, perturbés par les évolutions de l'environnement, les dérèglements, les catastrophes qui s'en suivent, les pertes de la biodiversité, les scientifiques, aujourd'hui, commencent à renouer le dialogue avec les autochtones et à mettre en commun les technologies modernes et les savoirs ancestraux. Par exemple, tout simplement dans la connaissance qu'ils ont du déplacement des animaux dans les forêts, parce que ça a été observé et transmis. La transmission étant chez les autochtones un mot-clé aussi, comme le dialogue. Donc voilà, la chamane, elle est dans cette logique-là. Et puis, on trouve ça de la Sibérie aux Andes, de l'Asie à l'Australie, à l'origine, des régions arctiques à l'Afrique. Et en fait, ça nous renvoie aux questionnements qui sont aussi très vifs aujourd'hui sur la place de l'homme dans l'univers, tout simplement.
Cela a-t-il généré des moments hors normes pour toi, hors du temps, de grâce en ce moment?
Oui, alors, j'ai déjà un peu parlé de ces moments hors temps, c'est ces dialogues, ces rencontres, mais c'est par exemple, c'est quelque chose là qui m'a franchement marqué, c'est Uluru, dans le centre rouge, le Red Center australien. Vous avez Ayers Rock, qu'on appelle, hein, cette montagne sacrée haute de 348 mètres, ce bloc monolithique qui est sacré pour les autochtones aborigènes. Et en 1995, quand j'y étais, son ascension, qui est interdite aujourd'hui, était encore libre. Et donc je me suis lancé dans cette entraide, hein, parce que c'est assez incertain, la sécurité est minimale, surtout à ce moment-là. Enfin, et quand je suis monté dans cette... Quand je suis arrivé au sommet, j'ai senti quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Ce souffle qui dominait le désert et qui m'a pris. Et j'ai pas senti une espèce de domination de la nature, parce que j'avais cette vision immense du désert rouge. Mais j'ai ressenti cette humilité. Je me suis senti un élément du tout, mais seulement un élément du tout. Et est né à partir de ce moment-là un respect encore plus profond pour la nature et les peuples qui la protègent. Voilà. Il y a eu d'autres expériences, mais je ne veux pas m'apesantir parce que le temps passe.
La mort n'est pas éludée dans ce dictionnaire, n'est-ce pas un thème décalé, en tout cas inattendu pour un voyageur?
Non, tout ça c'était inéluctable parce que mon premier grand voyage c'est 73 et le hasard fait que je vis le coup d'État à Santiago au Chili. Les premiers morts. Donc, voilà. Et un jour, un professeur ami de droit privé l'Université de Lorraine, il est spécialiste en sciences criminelles, m'a convié à un colloque, un poste assez récent, sur les nouvelles sépultures du monde. Il m'a demandé d'évoquer quelques sépultures du monde et je me suis rendu compte, en regardant les illustrations que j'avais faites, les photos que j'avais faites, que lors de nombreux séjours à l'étranger, j'avais coutume d'aller de temps en temps me réfugier dans un cimetière, dans une nécropole, d'observer les rituels funéraires, qui sont différents, mais qui sont aussi liés à une culture. Et ça fait partie, en fait, de cette vie différente. Et j'y attache beaucoup d'importance. Et au Cap-Vert, une musique m'attira un jour à Mindelo. Je vous lis ce que j'ai écrit, c'est assez rapide. Un violon, une guitare, des cavaquinhos à quatre cordes, un trombone, crois-je me souvenir, sa sonorité grave et puissante imposant le tempo. Les musiciens marchaient en tête d'une petite troupe en habit de circonstance, occupant l'avenue marginale non loin du marché aux poissons. Des couples d'aînés et une jeunesse concentrée honoraient sur l'île de San Vicente, au Cap-Vert, un vieux musicien de Mindelo. En partance pour l'ultime paradis de la morne. Des voix de femmes s'envolant vers le ciel azur contaient un récit heureux de jadis, une vie de pêche, de labeur et de chansons. L'atmosphère n'était ni sépulcrale, ni déchirante, sérieuse tout simplement. Marche lente, corps légèrement en mouvement comme pour danser avec le défunt, dont le cercueil porté par six solides gaillards oscillait en un rythme lent. Le cortège emprunterait ensuite la Manuel Matos pour rejoindre au sud le cimetière aux croix blanches où la plainte deviendrait lancinante.
On n'échappe pas au destin musical de Mindelo, la ville natale de Cesaria Evora. On vous propose quelques notes de musique.
Pas trop fort. Thank you.
tout discours, tout récit, il y a aussi les mots qui peuvent parfois révéler des désirs, faire des constats, tirer des leçons. Ils deviennent alors citations, proverbes. Au mot « boutique », j'ai été assez surprise, c'est d'ailleurs assez inattendu ce mot de « boutique ». Venant de ta part, j'en ai découvert un, je te cite. « Un petit faible me guide aussi, quel que soit le pays, en un de ces endroits où le hasard vous met en relation, puis en possession d'un Bouddha miniature qui enrichira la collection, avec à l'esprit le propos de l'éveillé, je cite, « Sois toujours satisfait, car celui qui connaît la satisfaction, même s'il ne connaît rien, est véritablement riche. » Tu en évoques d'autres au fil de ce dictionnaire.
Oui, je veux bien m'y arrêter. C'est évocation d'ailleurs, ce que je vais vous dire, sur la vision de l'humanité, sur le voyage. Albert Einstein, dans une lettre adressée à son fils Édouard, fragilisé par la séparation de ses parents, le 5 février 1930, écrit « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » J'ai trouvé l'analogie avec Cuba d'à propos. Cuba, ce pays ballotté par les bouleversements politiques du monde, de l'embargo américain, aboutir une révolution n'est pas si simple. Les mots, les bons mots, sont en capacité d'ouvrir des horizons du lecteur d'une façon plus imagée. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. De toute façon, le mot voyage est propice à ces bons mots, ces dictons, ces proverbes. Nombreux sont ces écrits relatifs au voyage qui est mouvement du corps et de l'âme.
Le corps d'abord avec le philosophe Alain, selon lequel, je cite, « Il faut que la pensée voyage et contemple si l'on veut que le corps soit bien. » Fin de citation. Pour ce qui est de l'âme, écoutons Bruce Chatwin, l'écrivain voyageur mythique, qui a écrit entre autres « Le champ des pistes » en Patagonie, pour qui, je cite, « Le voyage n'élargit pas seulement l'esprit, mais lui donne de la forme. » On retrouve tout cela au mot proverbe.
Autrice et journaliste brésilienne, Marta Medeiros, fait du voyage une exigence dans ce poème, faussement attribué d'ailleurs à Pablo Neruda. Je cite, « Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. » Alors, voyageons et méditons encore sur ce proverbe indien. En voyageant à la découverte de pays, tu vas trouver le continent à l'intérieur de toi. Qu'un jour l'eau si précieuse y en a manqué, la sagesse kurde élèvera l'esprit, redonnera confiance, relancera la dynamique. Je cite, si l'eau d'un bassin reste sans mouvement, elle devient stagnante et boueuse, mais si elle s'agite et coule, alors elle s'éclaircit, tel est l'homme qui voyage. Pour finir, je voudrais m'arrêter sur une pensée de l'écrivain américain Mark Twain, l'auteur des Aventures de Tom Sawyer, 1876, je cite. Voyager est fatal aux préjugés, à l'intolérance et à l'étroitesse d'esprit, et beaucoup de nos gens en ont cruellement besoin. Ultime propos, à mon sens, d'une brûlante actualité.
Merci à vous tous pour votre grande écoute. C'est long, je sais que certains ont envie de bouger. Voilà, on a évoqué qu'une partie des mots de ce dictionnaire, vous imaginez bien, il y en a 170, donc là, il aurait fallu passer peut-être 2 jours, 3 jours, on aurait eu des sandwichs, des boissons, tout aurait été peut-être plus cossu. On aurait pu en parler d'autres mots comme « jarre » qui m'avait interpellée, « musique »,« parfum »,« hasard », »,« ville », autant de mots que je vous invite à découvrir. Ouvrons donc maintenant le débat, si vous en êtes d'accord. Et comme il est d'usage dans ce lieu, je vous invite à lever la main pour demander la parole et que la parole circule.
Moi, j'ai beaucoup aimé la référence à Frayer, parce que Frayer, c'est l'action, le résultat de frayer, c'est la fraie. Et la fraie donne la vie. Et je rapporte ça à une citation dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui dit qu'une langue qui perd ses emprunts aux autres langues est condamnée à disparaître. Et enfin, une petite question. L'exil est-il un voyage?
Alors, très bonne question, puisque j'en parle dans le dictionnaire. Donc, je ne vais pas tout dévoiler ce soir. Non, mais l'exil, forcément, fait partie du voyage avec... Je fais référence à un ami, ancien ami, Tupac Amaru, ami du président Pepe Mujica, qui vient de nous quitter, qui était lui aussi Tupac Amaru. Tupac Amaru, c'était pas n'importe quoi, c'était la lutte armée contre la dictature, hein, contre les hommes du plan Condor, de l'opération Condor. Il faut monter, entre parenthèses, par les États-Unis. Et je fais référence à Alfredo parce que lui, il est parti en exil 30 ans en France. Et donc, un jour, la démocratie est revenue en Uruguay, la petite Suisse d'Amérique latine. Il est reparti au pays. Et là, c'est assez étonnant par rapport aux obstacles, aux épreuves qu'on doit subir quand on se frotte au monde, même quand on rentre à l'exil. Alfredo était devenu franc-maçon dans les Vosges. Vous savez, ceux qui habitent Épinal, ils vendaient des frites sur le marché. Et il est rentré, il a pénétré dans un atelier maçonnique dont il était devenu membre à son retour. Et qu'a-t-il vu en face de lui dans cet atelier maçonnique? Le policier qu'il avait torturé 35 ans auparavant. La capacité aussi de regarder le monde, de tirer les leçons et d'apaiser les choses. L'exil, pour moi, j'ai intégré ça dans cette réflexion. La lumière, l'ombre énorme, et cette lumière qui permet de transcender les situations les plus noires. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement. Allez, il faut au moins 3 questions.
C'est n'importe quoi.
Qui?
Allez. Tu as parlé de sépulture à un moment donné. Les premiers hommes qui ont faisaient des sépultures ont pris conscience de la mort, de l'au-delà. C'est vraiment le début de l'humanité. Tu as aussi parlé des chamans. Alors moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est le trajet de l'âme chez les chamans que tu as rencontrés. Est-ce que ces chamans que tu as rencontrés ont été capables de traverser le domaine de l'au-delà? Est-ce que pour eux, il y a une âme? Soit c'était bien que l'âme existe ou n'existe pas, tu ne sais pas, hein, le futur. Il y a ceux qui sont dualistes et ceux qui sont monistes, hein, ceux qui sont matérialistes, pour qui il n'y a pas d'âme, tout n'est que matière. Est-ce que les chamans que tu as rencontrés peuvent évoquer un trajet dans l'au-delà?
Alors, ils n'ont pas évoqué ça avec moi, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, mais ce qu'ils ont évoqué, c'est leur capacité de dialoguer avec l'au-delà, avec les esprits, disent-ils. Bon, le mot esprit, après, il faut l'expliquer, citer selon les cultures. Par exemple, on peut évoquer, j'avais fait une conférence ici sur la Macumba au Brésil. J'avais pénétré un terreiro de Macumba pendant plus d'un an, où il y avait aussi cette capacité du Pai de Santo et des médiums, en fait, à communiquer avec les esprits de la nature, etc. Disait-il. Mais il y a des choses assez extraordinaires qui se passent dans ces cas-là. Bon, sur le voyage de l'âme, j'ai pas dans le... Parce qu'il y a aussi différentes façons de considérer dans le monde le chamanisme, qui a ses variantes, ses familles. Le chamanisme pourrait de Sibérie, par exemple, ne sera pas le même que celui qui est vécu par les Mapuches. Mais il y a une transversalité, quand même, sur cette capacité à unir. En fait, c'est un trait d'union, un chaman. C'est un trait d'union entre le visible et cet invisible qui nous est cher à tous. Moi, en tant que journaliste, grand reporter, ça m'intéresse autant et je me force, je me suis toujours forcé à aller chercher le côté invisible, à voir ce qu'il y avait dans l'invisible, enfin, à voir ce qu'il y avait, entre guillemets, évidemment. On ne peut pas se contenter d'observer le monde simplement sur un regard. Il faut aller comprendre ce qui anime les gens. C'est-à-dire aller chercher. Chercher, c'est aller chercher soit de la documentation, soit ce qui les anime intérieurement, soit les gens qui les ont constitués, les mythes qui les habitent, etc. Et c'est important, si on ne fait pas ça, on ne comprend pas les différences qui font que nous sommes tous sur une même planète, mais heureusement que nous ne sommes pas tous pareils. Sinon, ça devient comme les beaux soldats qu'on a vu défiler. Une question, Jean-Pierre.
S'il n'y avait pas de frontières dans ce bas monde, ouais, est-ce que le voyage existerait encore?
Alors, je parle des frontières, évidemment.
Oui, j'imagine.
Il y a d'ailleurs un très bel ouvrage d'Olivier Weber, bon, je ne me suis pas inspiré, hein, qui est grand reporter lui aussi, qui a écrit sur les frontières. Eh bien, moi j'ai toujours aimé les frontières. Ça m'ennuie qu'il n'y ait plus de frontières en Europe. Pourquoi? Parce que c'était aller au-delà de quelque chose, aller vers l'inconnu. Passer une frontière, c'était déjà franchir quelque chose. Aujourd'hui, on arrive dans une sorte de monde un peu aseptisé, identique, un peu partout. J'ai au Mauville, par exemple, tu as évoqué le Mauville, là. Les villes, alors elles grandissent. Shanghai, au début des années 80, il y avait un immeuble. Et je me souviens, il y avait heureusement à ses pieds le Smiling Bar. Un bar privé, le premier qui existait en Chine. J'avais pu m'installer. Et maintenant, c'est l'horreur. Mais toutes les villes commencent à se ressembler dans le monde. C'est-à-dire à perdre une identité propre. Enfin, toutes, heureusement. Et les frontières, c'est un peu pareil. Perdre des frontières. Les frontières, c'est quand même des lieux où il y a, même dans les zones les plus violentes qui soient, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de trafic, donc de rencontre. Ça encourage la rencontre, ça permet des mouvements. Même s'ils sont clandestins, c'est du mouvement. Donc c'est sain. C'est sortir les frontières entre l'Afghanistan et l'Iran sont quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Malgré toutes les problématiques qui sont dans ces pays. Donc la question, voilà. Je pense que oui, les frontières. Bon, on a repassé les frontières où il faut marcher pendant 500 mètres parce qu'il y a un no man's land. Ben, moi, j'adore ça parce que c'est tu pénètres lentement, un pas lentement, vers un autre monde. Merci. Et ça permet de se. En plus, les douaniers étaient sympas. Donc, oui. Je préfère le mot frontière au mot fameuse limite dont j'ai parlé, à ne pas dépasser. Voilà. Ben,
autre question peut-être?
Une petite question aussi.
Ouais.
Si vous en avez. Ce que je trouve paradoxal, c'est que à notre époque, avec les technologies modernes, on peut voyager quasiment sans bruit chez soi et connaître à presque un instant T tellement de choses, dans tellement de domaines, pourquoi les sociétés humaines ne s'améliorent pas par l'homme, par exemple, notamment, des comportements généraux, alors qu'on a tous les éléments sans visiter les autres pays pour les connaître mieux, grâce aux technologies. Donc pourquoi il n'y a pas eu d'amélioration, sinon linéaire ou progressive ou régulière, mais au moins par à coup, à ces moments-là, compte tenu qu'on a quand même tous les outils.
Oui, alors on a...
Vous n'avez pas besoin de prendre un avion si vous avez déjà autrefois les 60 euros à la population des traits, etc. Bientôt. Mais comment dire, vous avez déjà des albums, ceci, cela, après il y a eu la télé, il y a eu la radio, etc. Maintenant, il y a des gens sur les verres. Comment se fait-il que les gens ne s'améliorent pas? Alors disons, rapidement, connaissance de plein de choses sans voir les gens. Moi, si je vois un truc à la télé ou je vois les Indiens d'Amérique ou je ne sais pas, je vois tomber dans les montagnes péruviennes, je peux presque y aller là, on va aller comme ça, j'ai pas envie d'aller là-bas, je peux y aller, vous voyez. Mais si je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs plus ou autres chamanicons, moi je crois que je vais les prendre plus que religion traditionnelle de toute façon, parce que je peux dire que l'approximation de religion, c'est une question. Mais je veux dire, pourquoi il n'y a pas une amélioration dans ces domaines-là? Alors, on a les outils.
Alors, la première, oui, j'ai bien compris le propos. Par contre, avoir les connaissances peut-être, mais déjà sans maîtrise de qui transmet la connaissance, c'est ce qu'on appelle le système médiatique aujourd'hui. Et puis, il n'y a rien de... Enfin, à mon sens, pour connaître la réalité, il faut aller à la rencontre de l'humain. Et forcément, ça ne se fait pas à travers un écran, par des images qui sont décidées par qui, sans être complotiste. Hein. On n'est pas dans le complot, là. Mais pour moi, il faut aller voir. Quand je vais en Corée du Nord, ce n'est pas pour faire une enquête, mais c'est pour aller voir et un peu plus. Et j'ai quand même appris, parce que j'ai demandé... À un moment donné, j'ai mis 3 ans pour je t'aime. J'ai compris qu'il fallait que je propose des sujets. J'ai proposé un sujet bateau, c'est le développement durable en Corée du Nord, avec un certain nombre de requêtes de reportage, et notamment la visite d'une unité de fabrication de panneaux solaires. Okay, et parce que tous les collègues disaient qu'ils vont... pour voir les défilés, une fois par an, toujours les mêmes, les 3 jours, et moi j'ai fait un peu plus de temps. Et donc j'ai visité, ils ont accepté. J'étais le premier à visiter, en tant que journaliste, l'usine de panneaux solaires. Et à un moment donné, je veux faire une photo, parce qu'il y a des super machines. Donc je demandais à chaque fois, je suivais le protocole, puisque l'homme qui m'accompagnait était fonctionnaire du protocole. Bon, en fait, c'était un observateur de ce que je faisais. Mais... Et il me dit, Claude, non, il faut que tu recules là. Je lui dis, ouais, je veux bien. Pourquoi? Elle me dit, j'aimerais pas qu'on voit la marque de la machine. Et la marque, c'était... moi, je peux aller la voir. Oui, pas de souci. C'était du japonais. C'était du matériel japonais. L'ennemi juré de la Corée du Nord, on est en plein embargo. Chaque fois qu'il y a soi-disant un bateau de pêche japonais qui est agressé par un sous-marin nord-coréen, tout ça, bon, voilà, pourquoi pas. Et bien, ils font commerce avec le Japon, quand même. Et ça, il faut le savoir. Donc, rien que le fait d'y aller, c'est pas enquêter, mais c'est raconter ce qu'on voit, quoi. Et ça, j'en ai quelques exemples sur les 15 jours que j'ai passés en Corée du Nord. Donc c'est important d'aller voir. Hein. C'est sûr.
Oui, mais on peut se faire.
Sans être missionnaire. Hein. Pas besoin d'être missionnaire. Hein. C'est simplement observateur.
Sans donner un vécu qu'on ne peut pas avoir à distance.
Et puis ça nous évite après de regarder le monde, comme je disais, à travers notre nombril occidental. Et ça apaisera peut-être les tensions. Voilà.
Merci. Le temps est venu de conclure. conclure, paradoxalement, j'en reviens à ta préface, ce qui correspond bien à l'idée du voyage qui est la tienne. Donc, je te cite, « Partir à la découverte du monde, c'est aussi s'offrir une plongée dans le passé, mesurer l'état de la planète, donc mieux appréhender ce que demain sera. » Et je retiens ta belle citation, « Le chemin étroit serpente jusqu'à l'horizon dans un monde chargé d'histoire. » Appalant, l'être trace en lui la voie du renouveau. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ce moment de grâce, je serais tentée de dire. Hein, voilà. On peut l'applaudir avec.
La grâce revient aussi. Et donc on peut l'applaudir aussi.